France Musique. Musicopolis. Jamais sans musique, le siège est la Commune de Paris. Chapitre 2, les théâtres rouvrent. Durant l'été 1870, après un début de guerre joyeux et enthousiaste, la France a déchanté. Ou plutôt non, elle a continué à chanter, mais des refrains différents. La Marseillaise, censurée pendant le Second Empire, reprend du galon. Dès le lendemain de la déclaration de guerre, elle est chantée pour la première fois aux Tuileries, pendant que l'empereur est au château. Ensuite, on l'entend à peu près dans tous les spectacles. À l'opéra comique, à la comédie française, au vaudeville, aux variétés, à la gaieté. Il est à noter, nous dit-on, que toutes les fois que la Marseillaise est dite pendant un des entractes de la muette, M. Aubert et Mme Scribe abandonnent leur droit d'auteur à la souscription en faveur des blessés. L'euphorie de la déclaration de guerre passée est arrivée la catastrophe de Sedan, puis le 4 septembre, la proclamation de la République. Sur ce, considérant que la patrie est en deuil et que l'ouverture des théâtres est en contradiction avec l'attitude générale de la population parisienne, la préfecture de police ordonne leur fermeture à partir du 10 septembre. Les directeurs sont invités à faire disparaître immédiatement les décors qui sont encore sur la scène, les bandes d'air, les rideaux, le mobilier et tout ce qui pourrait, en cas d'incendie, attiser le feu et le communiquer aux bâtiments voisins. On en profite pour réaffecter les nombreux pompiers des théâtres aux besoins ordinaires de la ville. Une fois prisonniers dans l'enceinte de Thiers, une fois passés les premiers désespoirs, les Parisiens n'ont plus grand-chose à faire. Brûlant d'un patriotisme ardent, fermement résolus à se défendre, décidés à tous les sacrifices, nous dit Arthur Pougin, le chroniqueur du Ménestrel, Paris sentait cependant le besoin, non de plaisir assurément, mais de distraction saine, venant offrir un dérivatif à son isolement et à sa douleur. On ne peut décréter l'ennui dans une ville assiégée, surtout une ville comme celle-là, sans risquer en même temps de lui enlever ses plus solides qualités et la meilleure partie de sa force de résistance. La musique vint tout à point présenter à la population parisienne le calme intellectuel dont elle avait besoin pour détendre ses nerfs surexcités au-delà de toute expression. Thank you. C'est Jules Padeloup, le créateur des concerts populaires, lui qui officie tous les dimanches depuis plusieurs saisons, qui va reprendre ses concerts le premier. Ce sera le 23 octobre 70 au bénéfice de l'œuvre des Fourneaux. Un programme tout à fait conforme à ceux des dimanches ordinaires, Aubert, Beethoven, Haydn et Weber. Le concert fut émouvant, raconte un témoin. Après une Marseillaise jouée par l'orchestre et chantée debout par toute la salle, on s'attaqua aux grands classiques. Et ce public, si ardemment patriote, acclama les pages les plus belles des compositeurs allemands. Beethoven, Weber furent une fois de plus applaudis d'un public suffisamment intelligent pour ne pas confondre patriotisme et chauvinisme, et pour accueillir le génie de quelques pays qu'ils viennent. Il est difficile d'imaginer meilleure preuve de goût, d'éclectisme artistique, que l'exemple de ces habitants assiégés admirant sans réserve les chefs-d'œuvre de leurs ennemis. À l'audition de l'ouverture du Freischütz et de la symphonie de Beethoven, le journaliste Amédée Blondeau s'enthousiasme et devient lyrique. « Ah, grand génie de l'Allemagne, la France vous aime et vous aimera toujours. Jamais elle ne vous comptera au nombre de ses ennemis. Jamais elle ne vous assimilera à ces hordes barbares, à vos concitoyens qui, en ce moment, souillent de honte et de crimes son territoire sacré. Oui, la France vous aime et Paris vous en donne une preuve suprême. » Padeloup a montré l'exemple, d'autres vont lui emboîter le pas. Les mairies d'arrondissement organisent des spectacles à bénéfice dans chaque quartier. Puis les bataillons de la garde nationale et les sociétés patriotiques s'y mettent à leur tour. Au mois de novembre, un Parisien écrit « Jamais il n'y eut plus d'affiches de spectacles, concerts, soirées musicales, matinées littéraires, etc. avec les chanteurs, actrices et étoiles à la mode de l'an passé. » Un certain monde y court. On s'y retrouve, on s'y presse, on y entend et l'on y fait des rodomontades. Les Prussiens vont bientôt lever le siège. En province, ils sont coupés, rejetés dans les Vosges. Il ne sera même pas besoin des francs-tireurs pour les poursuivre. Les femmes, les paysannes suffiront avec leurs manches à balai. notre Parisien poursuit. Avec quel dédain les Prussiens doivent-ils lire ces insanités? Que doit dire la province? Voilà bien ces Parisiens, ils ne peuvent se passer de spectacle, même lorsque nos fils et les leurs tombent frappés sous leurs yeux. Tout leur est prétexte pour s'amuser, ambulances, canons, blessés, misère, famine. Et ils ne sauraient faire l'aumône si la bourse ne leur est tendue par une belle dame aux yeux peints. Quelques voix, on l'entend, protestent contre cette nouvelle vague de divertissement qui envahit la capitale. Certains même, comme les journalistes étrangers, confinés là au même titre que les Parisiens, jugent avec une sévérité impitoyable ces Français si totalement amollis et futiles. Jules Padeloup a donc été le premier à reprendre les concerts dans le Paris confiné du siège de 1870. La deuxième séance, au bénéfice de l'ambulance de la presse, permettra d'entendre Beethoven, la pastorale, Mozart, Mendelssohn et Rossini. Bien sûr, cette nouvelle initiative fait des émules. La Comédie française, écrit Francisque Sarcey, rouvrit également sous le patronage de M. Legouvet, qui inaugura ses matinées littéraires par une conférence sur l'alimentation morale durant le siège de Paris. Ces représentations avaient une physionomie toute particulière. Éclairage sombre, public de gardes nationaux et de femmes en robe montante. Sur la scène, point de décor. Les acteurs, presque tous en toilette de ville. Et à travers des fragments de pièces du répertoire classique, quelques odes de circonstances improvisées par de jeunes poètes, en particulier Banville, qui s'amusaient à compter jour par jour, dans la langue des dieux, nos tristesses, nos joies et les curiosités de nos émotions les plus diverses. Pendant que les acteurs de la Comédie française ont initié leur matinée littéraire, les artistes de l'opéra réfléchissent à comment survivre en cette période. Comme les autres théâtres, leur salle a été fermée par décret de la préfecture de police. Le 1er octobre 70, la subvention a été supprimée. Et par conséquent, les appointements suspendus. S'il y a quelques stars à gros cachets dans l'institution, il y a surtout des petits traitements. Et leur situation est critique, comme celle de la grande majorité des Parisiens, il faut bien le dire. L'ensemble de ces artistes décide donc de se former en société des concerts de l'opéra. Le ministre de l'Instruction publique les autorise à donner des concerts sur la scène de la vénérable institution, sans décor, puisqu'ils ont tous été enlevés pour lutter contre le risque d'incendie, en habit de ville et seulement sur l'avant-scène. La danse est sacrifiée en raison de la limitation de la place. On se met d'accord sur un programme et la première séance a lieu le 6 novembre. Le programme du premier concert de l'opéra durant le siège de Paris a été savamment construit avec des passages édifiants de quelques grands opéras écrits tout spécialement pour la maison depuis un siècle et qui ont fait sa réputation. Extrait d'Alceste de Gluck, du Prophète et des Huguenots de Meyerbeer, de Guillaume Tell de Rossini, de la Muette de Portici d'Auber. Des extraits qui mettent en valeur l'amour sacré de la patrie et toutes les variations imaginables sur les thèmes patriotiques. On termine avec le chant du départ qui, pour une fois, remplace la Marseillaise.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France, voici pas de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sentiers au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons mourir, un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir.
Le 3 novembre 1870 a lieu à la Madeleine un concert au cours duquel on chante le Requiem de Cherubini qui inspire aux journalistes du temps des mots pleins de lyrisme. Le canon grondait dans nos forts. Et dans l'église, les voix chantaient en chœur l'horrible Dies Irae. Ô roi Teuton qui croyez en la justice éternelle et en l'immortalité de l'âme, écoutez les trompettes du jugement dernier. Ne craignez-vous donc pas, monarque chrétien, la voix déchirante des victimes de votre abominable ambition qui vous accuseront au jour du jugement ? Ordonnez la mort, prophète de malheur. Nous la chantons dans Paris et nous ne la craignons pas.
Thank you.
Parmi les auditeurs qui semblaient le plus pénétrés des vigoureux et suaves accents de la partition de Cherubini, nous dit le journaliste du temps, je citerai entre autres M. Ambroise Thomas et notre cher maître Aubert, le plus ancien élève de Cherubini, son ami. À l'offertoire, les voix ont fait silence et l'orchestre a pleuré l'admirable marche funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven. Après Beethoven, l'organiste de la Madeleine a pensé qu'on ne pouvait entendre que du Beethoven. Et le gigantesque instrument, vigoureusement mené par Saint-Saëns, a rempli le vaste bâtiment des mâles harmonies du final de la symphonie en ut mineur. Décidément, Beethoven est un musicien qui revient souvent dans notre histoire musicale du siège de Paris. Il est vrai que 1870 est une année Beethoven, le centenaire de sa naissance. On a déjà à cette époque un goût très vif pour les commémorations. Et puis, grâce à toutes les belles interprétations des orchestres parisiens, l'aura de Beethoven a grandi au cours du siècle et il est maintenant considéré comme le guide qui doit s'imposer à tous les musiciens. Son nom revient dans une circonstance qui vous étonnera peut-être. Le journal officiel annonce en effet pour le 13 novembre un concert exceptionnel qui sera donné au Cirque National sous la direction de Jules Padeloup en vue de recueillir des subsides pour la fonte d'un canon qui sera nommé Beethoven. L'orchestre attaqua la symphonie en la de Beethoven, raconte un témoin. Et quand il vint à l'andante, l'effet de cette phrase si douloureuse, si poignante sur l'assemblée tout entière fut inexprimable. Des larmes montèrent à tous les yeux. Et je ne crois pas que jamais le chef-d'œuvre du maître ait été plus vivement senti que ce jour-là. Toutes les cordes de notre âme vibraient à l'unisson. L'Allegretto de la symphonie numéro 7 en La majeure de Beethoven, l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Eliot Gardiner. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Catherine Déréthé pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.